j'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu sur la mémoire sonore des lieux. Est-ce que quelqu'un, en arrivant ici, il y a des liens stratégiques dans certains espaces, il y a des sons, des phénomènes sonores qui restent dans sa mémoire?
Il y a peut-être des spécificités liées à certains milieux, par exemple des halls d'entrée, on va avoir certaines caractéristiques que l'inconscient va dire aussi. On peut reconnaître.
Comme, par exemple. Comme par exemple.
La réverbération d'un endroit, par exemple. D'accord. Ça peut être caractéristique. Après, il y a plein de choses, une salle de bain, c'est pareil.
Ou en arrivant, j'ai entendu l'eau qui coulait à la fée. Comme.
Très bien.
Je me suis arrêtée pour le dire.
Donc en fait, on va travailler sur la mémoire, sur les lieux. Mais en fait, il s'agit de grandir un tout petit peu cette échelle de mémoire, cette vision de notre mémoire. Et il y a, dans un premier temps, la mémoire. En fait, la carte postale sonore, l'idée de carte postale sonore, c'est basé déjà sur la mémoire. Donc, comment on peut garder une trace d'une expérience sonore d'un lieu? C'est ça l'idée derrière. Or, il y a plusieurs échelles de cette mémoire. Il y a la mémoire dite immédiate, dans laquelle, quand on traverse un lieu, un espace, lors de cheminement, de parcours, on capte des phénomènes. On capte des phénomènes qui sont intégrés petit à petit dans notre mémoire. Donc en fait, c'est le corps, notre corps, en mouvement, dans lequel on capte des phénomènes. Certaines tombent dans l'oubli et certaines sont gardées dans notre mémoire. Ça, c'est une échelle de mémoire assez réduite qui dépend sur la personne elle-même, dont Jean-Paul, le matin, nous a parlé de « je ». Donc le corps du parcourant humain, soit le chercheur, soit les pratiquants de l'espace. Mais c'est une mémoire assez réduite. Après, il y a une mémoire beaucoup plus épaisse de cette mince couche de la mémoire immédiate. Cette mémoire épaisse, elle est aussi divisée en deux, un temps court et un temps long. Le temps court, c'est un temps où on découvre le rythme de l'espace. Comment l'espace sonne lors d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, des saisons. Parfois, dans certaines saisons, on met en avant certains phénomènes sonores, comme par exemple l'eau qui coule, la pluie, les arbres, le bruissement des feuilles d'arbres, quand il y a beaucoup de vent. Donc en fait, il y a les phénomènes sonores indiquent un temps, une temporalité particulière. Donc il y a des signes temporels derrière ces phénomènes. Et puis, la deuxième échelle de mémoire épaisse, c'est la mémoire, c'est une mémoire vraiment sédimentée, dans laquelle on peut raconter, couvrir toute l'histoire d'un bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, quand Pascaline elle a présenté notre école, l'école, il y avait plusieurs étapes d'aménagement qui, elle a présenté d'une façon historique, donc objective. Mais comment cette expérience est vécue par rapport aux usagers? Comment eux, ils captaient des sons? Quels sont les types de phénomènes sonores qui superposent dans le temps? Quels phénomènes ont effacé de l'existante et quels sont les phénomènes qui ont été ajoutés. Et là, c'est écrit qu'il y avait deux phases. La première, c'est la construction de bâtiments et puis un projet d'aménagement qui est fait lors des années 90. Donc, en fait, il y avait des changements des matériaux, des changements de certains espaces qui changent notre perception de l'espace. Donc, il y a une mémoire sédimentée. C'est ça en fait, dans les cartes postales sonores qu'on travaille sur la mémoire, il y a certaines qui vont travailler sur les parcours, la mémoire immédiate, et puis dans notre atelier, ça serait Pascaline Jean-Luc et moi, on va travailler sur, un tout petit peu sur orienter notre travail sur une mémoire épaisse, cette mémoire épaisse. Et pour ça, il y aura deux échelles du travail. Le premier, c'est votre expérience à vous. Comment, en pratiquant l'espace, vous gardez certains souvenirs sonores, vous faites une reconnaissance d'un bâtiment face à son sonorité. Et puis, une deuxième échelle de mémoire qui est faite avec les gens qui utilisent l'espace, les usagers. On a fait des entretiens, enfin, l'année dernière, lors de notre... C'était pas le Winter School, mais c'était plus grand. C'est un projet sur le patrimoine sonore européen, European Acoustic Heritage. On a fait des entretiens sur la sonorité de cette école avec tous les types des usagers, les étudiants, les professeurs, les doctorants, les secrétariats, l'accueil, les gardiens. En fait, chaque type des usagers a des mémoires qui sont différentes. Elles sont des mémoires des espaces qui varient selon le métier. Et en fait, ces entretiens-là sont mis en ligne sur le projet européen EAH qu'on va y montrer lors de notre parcours. Donc en fait, il s'agit, on a déjà avec ce corpus, vous allez construire votre corpus sur une mémoire plus ou moins superficielle ou bien fine, et puis la mémoire qui est encore beaucoup plus épaisse, pour savoir comment notre pratique de l'espace, à un moment donné de son vécu, change avec cette durée longue de l'expérience. Est-ce que c'est clair cette idée? Donc, ou bien est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Je veux bien que vous réexpliquiez la mémoire plutôt longue de la deuxième
c'est
partie.
Un temps, c'est un temps long. C'est une mémoire qui touche une durée du temps assez prolongée. Donc en fait, on va travailler dans cette mémoire-là sur comment le bâtiment il change au fil du temps et comment ça impacte sa sonorité. Par exemple, on a Jules qui est un témoignage de changement, l'aménagement qui a été fait lors de projets des années 90. Il y avait certains dispositifs architecturaux qui ont été ajoutés. Par exemple, l'entrée principale, la roue piétonne qui a été transformée en un espace intérieur de l'école. Donc il y a deux types de mémoire qui s'opposent dans ces endroits-là. Un qui était ajouté et l'autre qui était effacé et puis remplacé par un autre. Par un autre espace sonore. Puisque quand une roue piétonne qui est ouverte pour tout le monde, c'est la sonorité dans cet espace-là est complètement différente quand il s'agit d'un passage à l'intérieur de l'école.
D'accord, mais donc du coup, on ne parle pas de mémoire propre à un individu.
Collective.
C'est une mémoire collective. Dans cette mémoire-là, l'autrui est là. Donc si on parle de notre expérience à nous, c'est « je », il y aura après le « tu ». C'est-à-dire comment les autrui construire ensemble une mémoire collective, partagée. Donc l'intérêt en fait de ce travail-là est de savoir qu'est-ce qui identifie l'école par rapport au son. Quelle particularité, quel dispositif architectural qui produit ces particularités sonores, quel matériau. Donc tout ça, ça fait partie de la particularité de l'expérience sonore de cette école. C'est ça qu'on cherche. Donc en fait, j'aimerais bien qu'on... Donc Julien, pour nous, c'est un témoignage de l'ambiance de cette école, ou ces espaces, l'autre fois. Julien, est-ce que...
Je suis la partie épaisse de mémoire longue, c'est ça?
Donc, Julien, est-ce que tu peux nous dire quel était le changement de point de vue de l'expérience sonore?
Oui, alors, je vous explique. Moi, je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, avant la restructuration, à l'époque où, effectivement, l'école était construite autour de la cour cible du quartier. Mais c'était aussi ici. Bon, ça a changé des tas de choses au niveau spatial, mais c'était aussi les mentalités des gens qui étaient dans l'école qui a complètement disparu à partir des années 90, qui a complètement changé, on va dire. Ou si je me souviens bien, parce que je débarquais, je ne comprenais rien ni à l'architecture ni à tout ça, c'était très autonome, très mixé à la fois avec le quartier et mixé dans les rapports des gens qui sont ici. C'est-à-dire que chaque salle était appropriable par aussi bien des étudiants que des profs, que des studios entre qui mélangeaient tout ça. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris que le Cresson s'était formé entre des profs et des étudiants. Donc il y avait cette espèce de mixité à la fois sociale et entre les gens de l'intérieur, autour, et cette volonté d'ouverture de l'école, de l'architecture sur le quartier, et ce brassage intérieur. Après, quelles traces on peut en trouver au point de vue sonore? C'est là que je...
Enfin, ça veut dire que si on ne trouve pas des liens entre les deux, ça veut dire qu'on tombe presque dans l'oubli. Il y a une transformation massive de l'expérience sonore qui fait qu'une expérience superpose et presque masque toutes les traces d'intérieur.
Ouais, ou alors la
Donc,
première...
Il y a un changement vraiment important.
La première, enfin, pour retrouver ça, j'ai peut-être une petite idée, c'est qu'il y a encore quelques grands personnages qui ne sont pas encore partis, qui sont en train encore de hanter l'école. Des grosses personnalités, et si vous voulez les rencontrer, on peut les trouver. Quoi. Des choses comme ça, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être même des lieux.
Et le hall, l'entrée principale, c'est...
Ça, c'est une restructuration de l'an 2000. Ouais. C'est complètement nouveau. Enfin, nouveau. Ça n'existait strictement pas. Même tout l'espace de l'accueil n'existait strictement pas. Il était configuré autrement.
Mais du coup, l'environnement sonore devait être différent parce que maintenant c'est plus cloisonné.
C'est devenu très cloisonné, effectivement. Bah, c'est à l'époque aussi qu'on a mis des digicodes et des choses comme ça qui ferment un peu tout. Et que les gens se sont repliés. Moi j'ai mon studio, moi j'ai mon labo, nanana. Et puis il n'y a plus cette mixitude, justement.
Or aussi, l'utilisation à l'interne aussi, ça. Ça quand même avec le son qui vient de l'extérieur. Donc c'est des phénomènes qui montrent comment l'insertion de l'école est faite dans son contexte. Cette perméabilité sonore entre l'espace extérieur et intérieur, ça dit aussi quelque chose sur cette insertion, ces liens entre l'extérieur et l'intérieur, qui était volonté à un moment donné de l'histoire de cette école.
Ouais, je crois que pour résumer, en fait, la question de la mémoire, c'est vrai que la carte postale, elle évoque tout de suite, ça fait mémoire. Quoi. Regardez, j'étais ici, c'est comme ça que je m'en souviens. Après, Cécile explicitera la carte postale plus en précision. Mais après, on pensait proposer différentes pistes. Et c'est vrai que la piste avec Noah qu'on voudrait approfondir, c'est ce côté mémoire sédimentée qu'on va devoir aller chercher chez les autres. En fait, on va aller chercher la parole des autres pour enrichir notre expérience à nous. Alors que un groupe qui travaillera avec Cécile, Sylvie et Patrick, c'est ça, hein, travaillera peut-être plus sur l'expérience vraiment. In situ, immédiate du lieu et l'expérimentation aussi, travailler avec l'espace. Voilà, donc c'est un peu deux pistes, mais pas du tout imperméable. En tout cas, inclure cette dimension aussi historique des expériences qui
s'accumulent. Mais en fait, l'existence, l'expérience actuelle, ça fait partie aussi de parcours, puisqu'on travaille sur une mémoire sédimentée. Donc il y a plusieurs couches. Dans les plusieurs couches, il y a des étudiants qui viennent d'une temporalité, c'est 2, 3 ans, 4 ans, des doctorants, enfin, plus 5 ans. Et puis après, on a les gens qui, comme Jules, qui ont traversé quand même pas mal des années dans cette école-là. Et puis, la mémoire existante, elle s'étue immédiate avec les participantes. Donc, il y a un travail de croisement des phénomènes.
Parce que les gens qui viennent ici, vous qui êtes là, vous êtes vierge quelque part de cette expérience sonore. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc ils sont ils sont hors mémoire. Ou ils ont une mémoire vraiment de l'immédiat. Ils peuvent garder par exemple en mémoire ce que nous avons fait en haut. Et moi je crois important de rentrer justement, et c'est là où ça peut être intéressant de croiser, mais ça me semble peut-être difficile, mais je ne sais pas, vous verrez bien. de croiser cette virginité qui donne avec justement cette mémoire que tu dis sédimentée, qui est donc peut-être plus, malgré tout, aussi un peu plus sclérosée du parc, justement, du fait qu'elle est sédimentée. Mm-hmm.